dans le dugout.
Blue Jays keep chipping away. They're back within one with a ways to go as the hard-throwing Loaisiga enters the game. George Springer lines the first pitch he sees into right. Schneider getting the wave. Throw to the plate. Not in time. And this game is tied.
Ben, vous venez d'entendre des extraits du match de hier soir des Blue Jays. On avait parlé en début d'émission qu'on allait y revenir dans le détail à 6h30. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes avec notre spécialiste que je vais utiliser encore pour les derniers jours avant ses vacances à 6h30 pour parler de baseball, comme vous en avez l'habitude, je crois, depuis plusieurs semaines là avec les auditeurs, parce que les Blue Jays sont passionnants à suivre dans les dernières semaines. Hier, ça a été une première défaite à domicile depuis très longtemps. On pourrait presque aller demander un remboursement. Là. Les Jays ont perdu à domicile. Faut se faire rembourser les billets, là.
Ah ouais, c'est fou. 11 victoires de suite pour les Blue Jays au Rogers Center. Écoute, ça a été un match chaudement disputé hier, là, quand même, parce que au début, les Yankees, tranquillement, étaient capables de s'affiler avec l'avance.
Dès
la première manche, ça a été difficile pour Max Scherzer.
On a réussi à se défaire d'Aaron Judge, mais Chisholm après l'a mis l'autre bord pour 3 points.
Ouais, là. Exactement. Il y a eu beaucoup de difficultés avec son contrôle, Max Scherzer, depuis le début de la partie. On accorde un coup sûr à Trent Grisham, Cody Bellinger par la suite. Ensuite, justement, comme tu l'as dit, un retrait sur des prises pour Aaron Judge et ensuite un circuit de 3 points pour Jazz Chisholm. Ça fait partie de la récupération de Scherzer. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à où est son positionnement dans la rotation des Blue Jays et quel impact il aura. Il a été quand même dominant tout de même, a été capable de faire 5 manches et a accumulé quand même 4 retraits sur des prises, un but sur balle, donc c'est vraiment...
Comment tu le trouves, Max Scherzer, depuis le début de la saison? Ça a commencé avec la blessure, là, mais quand il est là, comment tu le trouves?
C'est sûr que Max Scherzer, c'est une bougie d'allumage. C'est le gars qui va arriver, qui va essayer d'amener son équipe le plus loin dans la partie avec une avance ou avec une égalité. N'aura pas peur d'affronter les gros frappeurs avec des balles rapides. Va tout le temps réussir à les mettre au défi. Et hier, on a eu un beau clash quand même d'âge parce que c'était Max Scherzer pour les Blue Jays et Cam Schlittler, je veux le dire comme il faut, pour les Yankees. Lui qui était à son deuxième départ en carrière. Donc, c'était assez intéressant de voir un peu où se situe, je te dirais, la plus vieille génération de lanceurs. Et on fera le pont aussi avec Rich Hill qui a pris la butte aussi pour les Royals un peu plus tard. Mais tout de même, pour ce jeu, belle prestation. 4 points mérités, on s'entend, il y en a un là-dessus, c'est sur un circuit. Mais sinon, mis à part certains contrôles, certains coups sûrs là, à éviter, on est encore dans ce processus de stabilisation-là et de revenir au talent ou à l'échelle très élite qu'il était là.
Cody Bellinger a eu un fort match hier pour les Yankees. Il a fait partie de ceux qui ont permis cette victoire-là des Yankees, qui égalise cette série-là parce que les Jays avaient gagné lundi soir. Là.
Ouais, exactement. Cody Bellinger, c'est bien simple. Il a eu un simple, un double et un circuit. C'est un de ses
bons... capable de faire le triple, lui?
Non, c'est sûr. Pas capable de faire le carousel.
Tant qu'à avoir une bonne soirée, il fallait au complet.
Exact. Là, c'est très décevant pour Cody Bellinger. Ouais. A aussi volé Nathan Lucas là, en fin de deuxième manche, pardon.
Avec un plongeon devant lui.
Là. Ouais, exactement. Donc, écoute, ça, je trouve que c'est tellement un bel ajout dans l'alignement des Yankees. Cody Bellinger, lui, que sa carrière a été un peu mise sur pause là, depuis la Série mondiale de 2020. Ça a été un peu plus difficile. Avait de la difficulté à reprendre un peu du galop. Avait pas des bons chiffres.
C'est surtout un gars qui, une saison, avait des chiffres incroyables. Une saison, avait l'air d'un frappeur du 3A. Saison, avait des chiffres incroyables. Tu sais, ça s'est alterné comme ça pendant quelques années. Allez voir les statistiques de Cody Bellinger au niveau de son MPP, là, puis la différence est frappante. C'est un gars qui manque de constance un peu. Alors, tu sais jamais si tu tombes sur la bonne année de Cody Bellinger ou
exact. La constance a été tellement un enjeu important dans sa carrière. A eu des votes de joueur le plus utile, mais après ça, comme tu le dis, tombe très loin. Et là, finalement, on récupère, on signe un contrat avec les Cubs, un contrat pont, et finalement, là, on est en train de revenir sur la pente ascendante. Mais mis à part ça, les Blue Jays sont tout de même revenus de l'arrière. Des coups sûrs importants de David Schneider, de George Springer pour venir égaliser la marque en fin de sixième manche.
Et la relève a fait le travail aussi pour garder ce match-là serré. Là.
La relève, Mason Fluardi, Justin Brewer, des jeunes lanceurs qui arrivent qui font face à des frappeurs exceptionnels. Les Giancarlo Stanton, Aaron Judge, Jazz Chisholm, Anthony Volpe, c'est tous des excellents frappeurs. Anthony Volpe, là, les gars, ça va pas très bien en ce moment. Il est rendu à sa 13e erreur cette saison. Il est au sommet, sommet des majeurs pour ça. Encore une fois, c'est l'erreur de Volpe sur la frappe de Miles Straw qui a réussi à créer ce rythme-là pour les Blue Jays et revenir de l'arrière. Et par la suite, on est capable de créer ce momentum ou garder ce momentum-là jusqu'en 9e manche, où est-ce que malheureusement là, Jeff Hoffman arrive après un bon travail des deux releveurs et accorde ce circuit-là à Ben Rice. Ben Rice est un excellent joueur, un peu sous-estimé dans l'alignement des Yankees, mais il fait très bien ça au premier but et a été capable de donner les devants et ça a été ça.
Le point de la victoire.
Ouais, ça a été ça le dernier clou dans le cercueil des Blue Jays. Tout de même, très bonne force de caractère. Addison Barger a connu un excellent match aussi. 2 coups sur 2 points produits.
Il connaît une bonne saison, Barger, dans l'ensemble.
Ouais,
là, c'est vraiment
une très belle surprise.
Maîtresse là, pour les Blue Jays. Et moi, j'ai une petite question qui me vient comme ça. Parce
Vas-y.
Que, t'sais, moi, j'adore suivre les Blue Jays. Puis je pense que je m'y connais quand même pas si mal. Mais Addison Barger, qui est un choix, si je me trompe pas, c'est quoi? C'est en 2018, je pense.
Exact. Dans ces eaux-là, si je me trompe pas, c'est 2019. Mais je suis pas sûr à 100%.
En tout cas, ça reste que c'est ton en 2018. Bon, voilà, c'est ça. Puis moi, je veux dire, avant cette saison, je le connaissais pas, Addison Barger. C'est, mettons, peut-être pour mettre en contexte les auditeurs, là, je te prends un peu à brûle pour point, là. Mais Addison Barger, c'est qui en tant que tel? T'sais, il sort de où chez les Blue Jays pour être autant de pièces maîtresses des succès de l'équipe cette saison?
Ben, Addison Barger, premièrement, c'est un bâton gaucher très, très, très important dans un alignement parce que il y a un beau mélange de puissance et de polyvalence. Barger est un des frappeurs qui frappe la balle avec le plus d'aplomb cette saison. Moins de 110 000 à l'heure quand même. Pour l'année, c'est impressionnant. Et justement, il est super polyvalent défensivement. Il peut jouer autant au troisième but que dans le champ extérieur, autant de la gauche que de la droite. On l'utilise souvent à droite. Un excellent bras. Il est fiable. C'est une belle surprise parce que c'est une belle preuve de constance. Comme Ernie Clement, ces deux gars qu'on apprend à connaître, qu'ils sont capables de sortir de situations de pression avec des résultats relativement positifs. Ernie Clement aussi, qui a fait des coups sûrs tellement importants tout au long de la saison cette année pour les Blue Jays, fait partie justement de ces jeunes-là qui connaissent vraiment un bel essor. Donc, Barger, écoute, a fait ses classes.
Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le cas typique d'un joueur de baseball qui a vraiment passé tous les échelons. Tu regardes son parcours, a joué au niveau des ligues de recrues, a joué dans le A, le A fort, le 2A, exact. Le 3, il est vraiment passé un niveau par niveau, et honnêtement il a, oui, 2018, ça paraît loin quand il avait été repêché, sauf qu'il avait été repêché à l'époque en provenance d'une école secondaire en 2018, donc il était très jeune.
Exact.
Il a commencé son parcours à 18 ans dans le baseball professionnel des ligues mineures, alors on savait à ce moment-là que ça prendrait plusieurs années avant qu'un gars comme ça arrive, et là, ben il a 25 ans, alors c'est à peu près la même chose que s'il avait été repêché à 23 ans d'un collège américain, qu'il avait pris 2 ans et qu'il arrivait maintenant dans le baseball majeur. Il est exactement dans le bon âge pour faire partie des Blue Jays pour les prochaines années.
Ouais, et c'est un des gars avec une des meilleures éthiques de travail au sein de l'alignement, est toujours là pour peaufiner, que ça soit au niveau du bâton, passe beaucoup de temps sur le T-ball, mais sinon, exactement comme tu l'as dit, Jasmin, c'est un gars qui a pris le temps de bien se développer, a suivi les conseils de ses coachs à merveille et a pas sauté des étapes, mais a pas été non plus a pas connu des vagues un peu. On parlait de Cody Bellinger un peu plus tôt. A toujours été constant. N'a jamais eu des creux de vagues, n'a jamais eu des sommets qui ont vraiment été explosifs. Et c'est pour ça que les Jays ont très bien fait dans son développement. Et c'est une des raisons pourquoi en ce moment il est une des clés du succès de l'équipe. Là.
Hugo, je peux t'amener sur quelques autres sujets baseball que je veux qu'on parle parce qu'il se passait beaucoup de choses quand même dans le baseball hier soir, notamment les Brewers de Milwaukee qui avaient gagné leurs 11 derniers matchs. Cette série-là s'est terminée hier soir finalement avec une défaite dans la centrale de la Nationale. La lutte contre les Brewers et les Cubs de Chicago est fascinante aussi à voir. Les Cubs sur papier ont une excellente équipe, sont une excellente équipe aussi, et les Brewers qui à chaque année on pense qu'ils ont, là cette fois on a perdu l'élément de trop, là cette fois ça ça va aller dans la mauvaise direction, réussissent toujours quand même à être dans la lutte. Et je pense qu'on fait les éliminatoires dans 7 des 8 dernières saisons.
Exact.
Bon an, mal an, ils sont quand même toujours là, les Brewers.
Il faut tout le temps considérer les Brewers parce que, oui, comme tu l'as dit, vont tout le temps se battre pour le sommet de la division centrale de la nationale. Écoute, c'est facile. Quand on a une rotation de la sorte là, du côté de Milwaukee, là, les Freddy Peralta, il y a beaucoup de rumeurs autour de lui pour la date limite des transactions, mais tout de même, selon moi, on devrait continuer de pousser Peralta, Mizrowski qui fait partie de ça, Brandon Woodruff qui est revenu, Jose Quintana, un vétéran, mais qui est toujours efficace, Quinn Priester cette année qui fait quand même ça, ressort un peu du lot. On a fait l'acquisition de Nestor Cortez en début d'année, ça a pas fait long feu. Cortez qui est sur la liste des blessés 60 jours, mais sinon on est toujours dans cette constance-là. William Contreras qui est un excellent receveur, Rhys Hoskins, on parlait des White Sox qui sont excellents depuis le match des étoiles, mais il y a certains anciens joueurs des White Sox qui contribuent aussi au succès de leurs équipes respectives. Andrew Vaughn en fait partie au premier but en ce moment, qui joue un très bon premier but. Bryce Turang, Joey Ortiz, et on a des jeunes joueurs aussi dans le champ extérieur qui font bien ça. Je pense notamment à Jackson Chourio qui est
la série sur Sunday. Ouais. Ben ouais, tout à fait, qui est impressionnant à voir. Et le personnel de lanceurs des Brewers des dernières années, à chaque année, quand tu penses que là, on a perdu le gros élément, ben t'arrives tout le temps à ressortir certains jeunes lanceurs. Abner Uribe a 25 ans, Chad Patrick en a 26, Quinn Priester en a 24. Alors, c'est tous des jeunes qui grandissent avec Freddy Peralta, qui est l'âge de cette rotation-là,
exact.
Avec Woodruff, qui revient un peu d'entre les morts, là, parce que depuis deux ans,
oui,
il avait à peu
ça.
Près pas lancé du tout, Woodruff.
Exactement.
Alors, c'en est un qui revient. Moi, je le trouve impressionnant de cette équipe-là, parce que c'est une équipe qui fonctionne à petit budget quand même par rapport aux autres et qui, à peu près à chaque année, se bat quand même pour être dans les meilleures équipes de la nationale. Hier, ils ont perdu finalement la fin de leur série de victoires, mais ça reste une équipe qui va très bien. Sinon, quelques autres nouvelles, une en particulier que je voulais parler. Tu sais, Hugo, j'apprends à te connaître, je te connais quand même, mais j'avais pas su encore que tu étais un fan des Red Sox. Quand tu m'as dit ça tantôt et que là, j'ai vu que Rafael Devers a joué au premier but hier pour les Giants, je me suis dit, ben Colin, je veux savoir ce que Hugo en a pensé de ça.
Ben écoute, c'est sûr que pour les fans des Red Sox, c'est
dont tu fais partie.
Ouais, c'est difficile de voir Rafael Devers au premier but chez les Giants. Parce
tu peux peut-être résumer là, rapidement
saga
effectivement, de Devers.
Donc Devers qui était le gros joueur, là, la grosse signature des Red Sox, c'est le joueur clé depuis beaucoup d'années à Boston. Finalement, a décidé de bouder lorsqu'on a fait l'acquisition d'Alex Bregman qui allait visiblement jouer au troisième but. Au début, lorsque les Red Sox ont fait son acquisition, on avait des rumeurs concernant et même des confirmations par l'équipe comme quoi il allait jouer au deuxième but et que l'endroit, en fait, le poste à Devers allait être sécurisé pour lui, il allait passer la saison là. Finalement, ben Bregman commence à avoir des répétitions au troisième but, comme de fait. On dit à Devers, tu vas avoir un rôle peut-être un peu plus de frappeur désigné, peut-être même le premier but, mais fais-toi-en pas, il va avoir une place pour toi au troisième but.
Finalement, ça, la chicane a pris.
Exact. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, parce que finalement, on a priorisé Bregman. Devers ne voulait rien savoir de jouer au premier but, n'allait pas prendre les répétitions du tout, et finalement demander une transaction. Et là, se retrouve à San Francisco. Se dit très ouvert d'esprit à jouer au premier but, a pris beaucoup de répétitions là, hier a disputé son premier match au premier coussin là, pour les Giants, et ça
ferait jamais avec
exactement,
les Red Sox.
Exactement.
Finalement, il a accepté de le faire avec les Giants, et ça s'est quand même pas trop mal passé pour lui hier au premier but.
Il a très bien fait, Rafael Devers, au
Bob Melvin,
but.
Le gérant, a mentionné qu'on n'a pas l'occasion de lui apprendre pendant un camp d'entraînement complet à jouer au premier but, il va devoir l'apprendre un peu sur le tas. Mentionné qu'il a eu des répétitions en entraînement là, après la pause du match des étoiles, et que là on se lance dans cette aventure-là. C'est un joueur de baseball, il va être capable de s'adapter, je pense, mais parce que c'est pas non plus là, de lui demander d'aller jouer au champ centre ou d'aller jouer à la réco. Le premier but est une position à laquelle on peut s'adapter, mais il y a un paquet de subtilités dans la manière avec laquelle jouer au premier but qu'il va falloir qu'il apprenne un peu sur le tas pendant la saison si on veut poursuivre cette expérience-là. Là.
Exact, étant un ancien joueur de premier but moi-même, mais il y a beaucoup de technicalité, même si ça semble être un poste relativement simple.
Exact.
Et c'est sûr que que l'adaptation.
Je suis aussi un premier but. Alors, bon, faut défendre alors, les premiers buts.
On défend les premiers buts.
Un
allez,
peu d'amour au premier but.
C'est la meilleure position au baseball majeur. Puis, non, c'est ça exactement. Quand tu es un joueur de coin, c'est plus simple. C'est plus simple naturellement parce que le positionnement est relativement le même, moi, exact. Donc, de voir Devers éclore au premier but, c'est sûr que ça va être bénéfique pour les Giants qui n'avaient pas vraiment là, un joueur de premier but. Là. C'était Wade Jr. qui était là, mais là, on a quelqu'un de plus stable, je crois, et qui est prêt à apprendre aussi, et naturellement un bâton élite là, dans le baseball majeur.
Et Hugo, en terminant, on peut parler là, du match de ce soir pour les Blue Jays qu'on va surveiller. C'est la fin de la série contre les Yankees. C'est Max Fried et Chris Bassett qui seront les deux partants. Alors, un bon duel de partants ce soir à surveiller pour conclure la série. Et c'est le dernier match entre les deux équipes avant début septembre. Il reste une dernière série de trois matchs début septembre entre les Yankees et les Jays. Alors, on se reverra pas beaucoup là, d'ici à la fin de la saison.
Non, exact. Faut que ça compte pour les Blue Jays présentement. Max Fried, qui est excellent, connaît une très bonne saison. Et Chris Bassett, ben, on espère qu'on va avoir une bonne sortie lui, parce que lui aussi, ça peut y aller un peu en dents de scie. Donc, ça va être intéressant de voir ça, et j'ai déjà hâte à la prochaine série au mois de septembre.
Ouais, une chose à la fois quand même. Là, on va y aller avec le match de ce soir, mais puis tranquillement, mais je pense qu'au mois de septembre, ça va être toute une série, ça, c'est le quoi, le 7, 8, 9 septembre, quelque chose comme ça, le 5, 6, 7 septembre à New York et non pas à Toronto, donc au Yankee Stadium. Une fin de semaine, là, un vendredi, samedi et dimanche en septembre, mais pour ce soir, on termine cette série-là contre les Yankees au Rogers Center à Toronto.